Radio Alliance Plus, au fil des pages.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette émission au fil des pages sur Radio Alliance Plus, 103.2 FM à Nîmes et dans les environs, puis aussi en DAB+. Au micro, Christian Delors, à la technique aujourd'hui, c'est Dorian Méruex. Nous avons le plaisir d'accueillir Michel Boissard. Bonjour Michel.
Bonjour Christian.
Il y a pas mal de temps que vous n'êtes pas venu ici, mais vous revenez pour un livre tout à fait intéressant qui va dans la suite d'ailleurs de l'émission que nous avions enregistrée en 2018, puisque vous êtes le président de l'association
la Société d'Histoire du
Société d'Histoire du Protestantisme de Nîmes du Gard, et vous êtes l'auteur de divers ouvrages et en particulier un ouvrage intitulé L'encre et le sang, qui est une biographie de Henri Barbus.
C'est cela.
Et nous avions présenté donc ce livre à cette époque-là. Et vous avez été sollicité par Laurent Gervereau de l'Académie française, je crois.
Laurent Gervereau travaille. C'est un philosophe et un écrivain, mais il n'est pas membre de l'Académie française. Mais l'ouvrage a été préfacé par Pascal Horry. Qui est l'Académie française.
Voilà. Et qui, ils ont publié un gros pavé, un gros livre important, composé de diverses interventions, dont la vôtre. Mm-hmm. Ce livre est intitulé Pacifisme, ou Pacifisme au pluriel. Il est édité par la maison d'édition Le Nuage Vert, dans la collection les couleurs des nuages. Alors, il y a le nuage vert, les couleurs des nuages.
Oui.
Et là, vous avez donc publié une intervention assez longue sur Barbus, et vous allez nous présenter donc un peu ce que vous avez tenté de montrer dans cette contribution assez longue. Hein, parce que
une vingtaine de pages.
Alors, pacifisme d'abord, sur le livre lui-même.
Alors, la sollicitation de Laurent Gervereau, qui est par ailleurs l'auteur avec Patrick Cabanel d'un ouvrage sur une grande dynastie protestante qui s'appelle la Saga Bost, qui est paru il y a plusieurs années. Laurent Gervereau a conçu cet ouvrage intitulé « Pacifiste ». Et pas pacifisme, mais pacifiste, c'est-à-dire toute une série de personnages, de personnalités, de leaders d'opinion qui se sont battus pour la paix, pour combattre donc la guerre, pour essayer de faire reculer la guerre. Ce sont les pacifistes. Dans ce contexte-là, j'ai été sollicité par Laurent Gervereau, sans doute à l'initiative de Patrick Cabanel, sur la personnalité d'Henri Barbus. Alors, j'avais travaillé sur une biographie que j'avais publiée il y a 5 ans aux éditions de L'Harmattan, qui s'appelait Henri Barbus, l'encre et le sang, portrait littéraire avec groupe. C'est-à-dire que j'avais parlé, j'avais centré sur la biographie de Barbus, mais je l'avais lié aussi à tout le monde intellectuel, politique, social de son époque. Voilà. Donc, la vingtaine de pages, la contribution qui m'a été demandée par Laurent Gervereau, je l'ai intitulée « Henri Barbus, du pacifiste paradoxal au pacifiste révolutionnaire ». C'est-à-dire que Barbus a deux faces, si je puis dire, dans le combat qu'il a mené pour la paix, à partir de la publication de son ouvrage, de son roman, 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 témoignage ou manifeste qui s'appelle Le Feu, journal d'une escouade, qui a été publié en 1916 et qui a obtenu, tout de suite après sa publication, deux ou trois mois après, le prix Goncourt 1916, et qui est resté parmi de quelques autres ouvrages sur la guerre de 14, qui est resté un classique de ce qu'on appelle la littérature de guerre.
Oui. Et revenons un tout petit peu à l'ensemble de l'ouvrage. Pacifiste, donc, il traite des pacifistes, surtout de ce début du 20e et fin
c'est
du
ça,
19e, ou bien
les pacifistes essentiellement entre les deux guerres.
Entre les deux guerres,
entre
oui.
les deux guerres. C'est-à-dire, bon, il y a des courants pacifistes qui existent avant la guerre de 14,
oui.
puisque Barbus, par exemple, est un pacifiste, un internationaliste. Ce sont les courants de gauche, les courants socialistes. De l'époque. Mais le développement du mouvement pacifiste, c'est essentiellement après la Première Guerre mondiale et jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale, évidemment, et puis après, bon, sous d'autres formes, après la Deuxième Guerre mondiale, après les cinq ans qui se sont traduits aussi par des actes de barbarie innommables, les camps, etc., etc. Mais donc, c'est cette période-là, c'est la montée du pacifisme, en particulier en France, mais également en Europe.
C'est-à-dire que la guerre de 70 n'avait pas engendré de mouvement pacifiste aussi important que la Première Guerre mondiale.
La guerre de 1870 n'a pas engendré en effet de mouvement pacifiste significatif, mais surtout la guerre de 1870 a nourri un courant nationaliste.
Oui.
Ça a nourri le courant nationaliste, la fameuse ligne bleue des Vosges, et tous les courants, l'Alsace et la Lorraine. Il s'agissait de récupérer l'Alsace et la Lorraine.
Oui, oui.
Et c'est ce courant d'ailleurs qui a nourri le courant nationaliste et le courant belliciste en 1914.
Oui, hein. Oui.
Le courant à nationaliste et belliciste contre lequel Jaurès s'est battu, effectivement. Mais donc, Jaurès s'était battu bien avant la guerre de 14, puisqu'il est assassiné le 31 oui. juillet 1914, mais il se bat bien avant. Ça fait partie de l'ADN, si l'on peut dire, le pacifisme, ça fait partie de l'ADN du Parti Socialiste Unifié en 1905, sous l'impulsion de Jaurès.
Donc, Barbus, lui, il était pacifiste, mais il va au front. Il est envoyé au front, c'est
voilà,
ça ?
Alors, peut-être on peut dire un mot sur Henri Barbus, oui. parce que c'est quand même un gardois aussi.
Ah, oui.
Alors, Henri
ah,
Barbus,
c'est plus,
voilà,
non.
mais c'est, voilà, c'est cette particularité. Et un protestant, en plus. Bon, enfin, un protestant, il est de racines de oui. famille protestante. Henri Barbus est né à Asnières, donc dans les Hauts-de-Seine actuels, en 1873, mais sa famille est originaire de Tornac,
ah oui.
qui est un village juste à côté d'Anduze. Il existe encore, lorsqu'on visite Tornac, un mas ou un hameau qu'on appelle le mas ou le hameau Barbus. Et c'est cette famille de huguenots, de paysans huguenots, qui sont devenus des commerçants par la suite à Anduze, qui est la base de la famille d'Henri Barbus. Le père d'Henri Barbus, Adrien, qui est né à Anduze, va faire des études de pasteur à Genève.
Ah oui.
Il sera pasteur à Genève, mais c'est le Genève qui ne lui plaît absolument pas, parce que c'est un Genève extrêmement
fermé.
Étroit et fermé. Et il va quitter et la vocation de pasteur et Genève. Il va aller vivre en Angleterre. Il rencontrera la fille d'un fermier du Yorkshire qui s'appelle Benson. Elle s'appelle Annie Benson. Elle est très belle. Ils tombent amoureux et ils se marient et ils auront trois enfants, deux filles et un garçon qui s'appelle Henri Barbus. Voilà. Donc, alors, première chose, donc, Henri Barbus est certes né à Paris, dans la région parisienne, mais il a des racines gardoises, des racines également protestantes, des racines huguenotes, des racines, et on peut même dire que un des ancêtres de Barbus a été galérien pour la foi au moment de la révocation de l'édit de Nantes. Ouais. Alors, Barbus, c'est un jeune homme qui va faire des études. Il perd sa mère assez tôt. Il a trois ans quand sa mère disparaît. Il sera élevé par la gouvernante de la famille qui deviendra la deuxième épouse d'Adrien Barbus, le père. Et il va faire des études. Donc, il vit à Paris du côté de la butte Montmartre. Il va faire des études qui le conduiront à une licence des lettres en Sorbonne. Et la fréquentation de milieux littéraires. Et il va publier un premier recueil de poèmes qui s'appelle Pleureuse en 1895. Et ce recueil de poèmes va attirer l'attention d'un des pontifes de la littérature de l'époque qui tenait feuilleton dans l'Écho de Paris, qui s'appelle Catulle Mendès. Catulle Mendès fera un article dithyrambique sur les pleureuses. Et donc Henri Barbus va fréquenter Catulle Mendès. Il se trouve que Catulle Mendès a plusieurs filles, trois filles, et la plus jeune, qui s'appelle Hélione, qui est blonde comme les blés, très belle, tombe amoureuse de Barbus, qui est un joli garçon aussi. Et donc Barbus va rentrer dans le milieu littéraire. Donc, au début de sa vie, c'est au début de sa carrière, si l'on peut dire, Barbus, c'est un jeune homme mondain qui fréquente les milieux littéraires à la mode. Et il fréquente également les milieux pacifistes qui existent déjà à l'époque. Alors, les milieux pacifistes à l'époque, c'est les milieux de la Revue pour la paix de Frédéric Passy et de Charles Riget. Et puis, Barbus va intégrer le comité de rédaction d'une revue qui s'appelle La paix par le droit, qui a été créée par la Société française pour l'arbitrage entre les nations. J'y insiste parce que effectivement Barbus fréquente déjà des milieux pacifistes qui ont un lien avec notre ville, puisque la revue La paix par le droit avait vu le jour en 1887, sous l'égide de six lycéens nîmois du lycée national de garçons, qui s'appelle aujourd'hui le lycée Daudet. Et donc, Barbus est influencé par ces milieux pacifistes. Alors, ce milieu pacifiste, ce n'est pas un milieu qui dénonce la guerre, c'est un milieu qui demande que tous les conflits qui peuvent intervenir sur le plan international fassent l'objet de négociations et d'arbitrage. C'est l'idée de l'arbitrage, c'est l'idée, bon, qui présidera d'ailleurs à la création de la Société des Nations après la Première Guerre mondiale. Et l'arbitrage, c'est encore l'Organisation des Nations Unies depuis 1945.
Et c'est d'actualité, d'ailleurs.
Absolument, tout à fait. Donc, Barbus fréquente ces milieux. Alors, c'est ce jeune homme mondain qui écrit des poèmes, qui écrira un premier roman qui s'appelle Les Suppliants, qui a un petit succès d'estime, puis un deuxième roman qui s'appelle L'Enfer, qui, en 1908, qui attirera l'attention de l'Académie Goncourt, mais qui n'obtiendra pas le prix. Donc, c'est un jeune homme qui est tout à fait mondain, mais lié quand même au milieu socialisant, pacifiste, soucieux de l'arbitrage des conflits, lorsque interviennent des conflits internationaux. Voilà. Donc, ça, c'est la première partie de la vie de Barbus, ce qui nous atteint, qui nous permet d'atteindre 1914. En 1914, il va y avoir un véritable basculement de la part dans la vie de Barbus. Ce basculement, c'est le suivant, c'est que ce socialisant, ce pacifiste, cet écrivain mondain qui est un écrivain à la mode et qui fréquente toute une série d'écrivains de l'époque, de penseurs, etc., a 41 ans, c'est-à-dire qu'il est quand même déjà âgé, et décide tout à trac de s'engager. de s'engager, alors que rien ne le légitimait dans sa formation. Si, puisqu'il était plutôt pacifiste, il était plutôt jaurétien, influencé donc par la pensée de Jaurès et l'idée de la lutte contre la guerre, et puis tout soudain il bascule et il écrit au quotidien L'Humanité, qui est un quotidien socialiste à l'époque, et le quotidien de Jaurès. Il écrit une lettre au directeur de L'Humanité qui paraît le 9 août 1914. Et il écrit ceci. « Voulez-vous me compter parmi les socialistes antimilitaristes qui s'engagent volontairement dans la présente guerre ?» Cette guerre est une guerre sociale qui fera faire un grand pas, peut-être le pas décisif, à notre cause. Elle est dirigée contre nos vieux ennemis de toujours, le militarisme et l'impérialisme, le sabre avec une majuscule, la botte avec une majuscule, et j'ajouterai la couronne avec une majuscule. Et c'est signé Henri Barbusse.
C'est se battre pour la paix.
Voilà. Il veut se battre pour la paix pensant que en réduisant l'impérialisme et le militarisme prussien, on peut effectivement se battre pour la paix. C'est l'illusion, puisque c'est une illusion d'ailleurs qui est partagée par l'ensemble, qui était condamnée par Jaurès, bien entendu, hein, mais qui est partagée par pratiquement la quasi-totalité du mouvement socialiste à l'époque. Et notamment par Léon Jouot, qui est le secrétaire de la CGT, qui, devant le cercueil de Jaurès, dit « Nous allons nous battre pour notre grand Jaurès, pour la mémoire de notre grand Jaurès, mais nous allons essayer d'exterminer les Boches, quoi, en fait. Voilà. » Voilà. L'impérialisme et le militarisme allemand. Et donc, Barbusse partage, il devient un soldat de la paix, ce qui est un paradoxe. C'est quand même le pacifiste paradoxal.
Voilà, il est temps de faire une petite pause et vous nous proposez d'écouter la célèbre chanson de Craon, qui n'est pas de cette époque-là, je crois.
C'est de la guerre de 14.
La fin de la guerre de 14,
oui. Elle a été écrite, on ne sait pas par qui, visiblement est anonyme, et elle avait été recueillie et popularisée par un ancien combattant qu'on retrouvera d'ailleurs à côté de Barbusse dans la création d'associations d'anciens combattants, qui s'appelle Paul Vaillant-Couturier. Voilà.
Quand au bout de 8 jours, leur peau terminée, on va reprendre les tranchées, notre place est si utile que sans nous on prend la pile. Mais c'est bien fini, on en a assez, personne ne veut plus marcher. Et le cœur bien gros, comme dans un sanglot, on dit adieu aux civilos. Même sans tambour, même sans trompette, on s'en va là-haut en baissant la tête. Adieu la vie, adieu l'amour, adieu toutes les femmes. C'est bien fini, c'est pour toujours de cette guerre infâme. C'est à Craon, sur le plateau, qu'on doit laisser sa peau. Car nous sommes tous condamnés, nous sommes les sacrifiés.
Radio Alliance Plus 103.2 à Nîmes. Vous êtes dans l'émission Au fil des pages avec Michel Boissard qui nous parle d'un livre intitulé Les pacifistes et de son intervention relative à l'écrivain Henri Barbusse. Voilà, Michel Boissard, on a écouté donc cette chanson de Craon.
Craon, oui.
Et maintenant, il nous reste quelques minutes pour continuer dans la présentation de votre intervention dans ce livre, Les pacifistes.
Alors, le titre de ma contribution, c'est Du pacifiste par paradoxal dont j'ai parlé tout à l'heure, puisque c'est un pacifiste qui s'engage à l'âge de 41 ans et qui va être au front, vraiment sur le front dès le début, qui sera blessé, qui aura la médaille de guerre, etc., etc., la croix de guerre plus exactement, mais qui, à partir de son expérience, va également transformer sa vision de la guerre. Et on peut en avoir un premier témoignage avec les carnets de guerre qui vont servir à rédiger, à écrire plus exactement le roman témoignage qui s'appelle Le Feu. Voilà les carnets de guerre, le 1915, quelques phrases de Barbus. 9 janvier 1915, tranché à la baïonnette, D, c'est un de ses camarades, frappé à la tête, le crâne ouvert, râle. G, un autre de ses camarades, bras coupé, crie qu'on lui bande le bras. La rafale redouble, feu effrayant pendant le reste de la journée, balles, sifflements, les infirmiers et les morts, odeur pestilentielle. Cette expérience vécue du front des tranchées, qui est atroce, effectivement, tous les autres témoignages sur la guerre l'ont montré, conduit Barbus à réfléchir, à modifier sa vision de la guerre, à revenir à son courant pacifiste, mais moins le courant pacifiste par l'arbitrage, par la négociation, que par la dénonciation de la boucherie, de l'ignoble charcuterie de viande avariée par la nécrose et le tétanos, comme l'ont écrit d'autres écrivains qui étaient avec Barbus. Donc, c'est ce Cévenol protestant qui se souvient maintenant qu'il est aussi d'une famille de rebelles et qu'il va dénoncer la guerre. Il va la dénoncer dans un ouvrage qui paraîtra en feuilleton, un roman témoignage qui s'appelle Le Feu, journal d'une escouade, qui paraît dans un journal socialiste à partir d'août 1916, qui s'appelle le journal socialiste, s'appelle L'œuvre. Et donc, lorsque le feuilleton sera terminé, ça va durer pendant quelques mois, on est à la fin de l'année 1916, et l'éditeur Flammarion va publier quelques exemplaires, les premiers exemplaires de ce roman, de ce texte de témoignage qui s'appelle Le Feu, journal de l'escouade, et l'envoie aux académiciens Goncourt. Les académiciens Goncourt vont au deuxième tour de scrutin, là il n'en faudra pas 14 comme aujourd'hui, mais au deuxième tour de scrutin, par 8 voix contre 2, le Goncourt de 1916, qui est le 14e prix Goncourt, est attribué à Henri Barbus pour Le Feu, journal d'une escouade. L'un de ceux qui ont voté contre l'attribution de ce prix Goncourt à Henri Barbus s'appelle Daudet. C'est le fils d'Alphonse, c'est Léon Daudet qui sera un des leaders de l'extrême droite et du journal L'Action française, qui considère que le feu est un brûlot antipatriotique, et il écrira, comme l'écrira d'ailleurs son directeur de publication qui est Charles Maurras, qui est le directeur donc de l'Action française. 1916, donc, Barbus publie, et ça a un très grand succès, en 1918, 200 000 exemplaires, il faut le voir l'époque quand même, 200 000 exemplaires du Feu ont été vendus, ont été lus surtout avec passion par les poilus, parce qu'ils ont considéré que c'était la première fois qu'on parlait de ce qu'ils étaient. Et en 1917, Barbus, qui a été réformé, va créer, avec Paul Vaillant-Couturier, Raymond Lefebvre et un ouvrier qui s'appelle Georges Bruyère, l'Association républicaine des anciens combattants, qui va être donc un organisme qui va lutter à la fois pour les intérêts moraux et matériels des anciens combattants, de ceux qui seront sortis de la guerre, mais également qui va orienter l'action des anciens combattants contre la guerre. Et ensuite, et je vais un petit peu plus vite pour qu'on puisse synthétiser les choses, Barbus va publier un deuxième ouvrage en 1919 qui s'appelle Clarté, qui est là aussi, mais cette fois-ci de manière plus romanesque, une dénonciation de la guerre, des mécanismes qui conduisent à la guerre et comment les gens peuvent être dupes. Et à partir de Clarté, il va pouvoir créer à la fois... Bon, il écrit un roman et il constitue une revue. Il publie une revue qui s'appelle Clarté et un mouvement des intellectuels révolutionnaire qui s'appellera Clarté. Révolutionnaire parce qu'entre-temps est intervenu en 1917, la même année où est créée l'Association républicaine des anciens combattants, ce que Jules Romain appelait cette grande lueur à l'Est, c'est la révolution d'octobre 1917 en Russie. Et à partir de là, le pacifiste paradoxal devient un pacifiste imbu des idées révolutionnaires, influencé par ce qui s'est passé à l'Est de l'Europe, en Russie. Et donc, c'est à partir de là que la vie de Barbus va basculer dans un travail de dénonciation, d'un travail de leader d'opinion contre la guerre et contre les mouvements qui seront liés au système capitaliste. Jusqu'à ce qu'il crée une autre revue qui s'appelle Monde et participe à la création d'un mouvement pacifiste. Nous sommes à ce moment-là autour des années 30 et avec la montée du fascisme, un mouvement qui s'appellera le mouvement Amsterdam-Pleyel, du nom de deux congrès qui se sont tenus en 1932-1933 aux Pays-Bas à Amsterdam et à la salle Pleyel à Paris.
Écoutez, merci beaucoup Michel Boissard, là, c'est tout à fait passionnant. Donc c'est une contribution à un gros ouvrage qui s'appelle Les Pacifistes, et là vous présentez en détail donc l'engagement de Barbus, son évolution depuis son premier engagement dans la guerre de 14 jusqu'à ces dernières revues et son implication justement dans la... C'était, comme vous avez dit, la dernière revue, c'était Combat, c'était...
Non, c'était Monde.
Monde.
C'est Monde.
Oui, voilà. Bien, écoutez, il ne reste plus qu'aux auditrices et aux auditeurs à lire votre livre, qu'on trouve certainement dans les librairies.
Oui, on peut le commander dans les librairies, il n'y a pas de problème.
Celui-ci, on doit pouvoir le trouver dans les bibliothèques. Le Pacifiste, oui. C'est un très gros livre, donc c'est pas...
C'est un très gros ouvrage, effectivement, auquel a participé d'ailleurs Patrick Cabanel pour parler des protestants et du pacifisme, puisque les protestants sont en pointe dans le mouvement pacifiste.
Merci beaucoup. Vous êtes toujours sur Radio Alliance Plus dans l'émission Au fil des pages qui se termine ainsi. Merci Michel Boissard d'être venu.
Merci Christian de m'avoir invité.
Cette présentation. À bientôt. Au revoir.
Au revoir.
Alliance Plus.